Bienvenue sur Radio Vuille, la radio créée par des génies. Bienvenue sur Radio Vuille, la radio créée par des génies. En compagnie de tous les élèves de la classe 6HB de l'Union.
Bonjour, je suis Karchnavi de l'Unior sur le plateau de Radio Vie, dans la classe 6HB. Je vais vous présenter le programme avec Ladina et Eline. Je donne tout de suite la parole à Eline qui a le plaisir de nous dévoiler le programme de notre émission.
Salut Karchnavi, nos thèmes aujourd'hui c'est à la découverte du Vuille fribourgeois. On avait envie de parler du canal de la Broye, des grottes du Vuille et de l'oppidum. Je passe la parole à Ladina qui va nous présenter la première interview.
Salut Eline, nos copains de classe, Inès, Maï et Mickaël vont poser quelques questions sur le canal de la Broye à Monsieur Pierre-André Burnier, syndic de notre commune Montvuille. Avant de commencer l'interview, nous écoutons Alain Dallenbacher.
Bonjour Monsieur Burnier.
Bonjour.
Pourquoi le canal de la Broye a-t-il été construit ?
Alors le canal de la Broye, il a été construit dans des ouvrages qui ont été prévus dans la première et la deuxième correction des eaux du Jura. C'est des ouvrages qui ont été faits pour assainir finalement la plaine des Grands Marais qui était souvent inondée. Et le canal de la Broye est un des quatre ouvrages principaux de ces corrections des eaux du Jura.
Mais en fait, pourquoi lui a-t-on donné ce nom ?
Alors, à l'origine, je ne la connais pas, puisque on connaît la rivière de la Broye, hein, qui vient depuis la Veuvez, depuis Sansal, qui s'écoule direction Oran, Payerne, qui arrive dans le lac de Morat jusqu'à Salavo, ça c'est la rivière de l'Abroie. Et le canal de l'Abroie, à l'origine, je ne le connais pas du tout. Mais j'imagine que ça a une relation avec la rivière de l'Abroie.
Quand a-t-il été construit ?
Alors, le premier ouvrage, l'assainissement, il a été fait dans les années 1860-1870. Précisément, je crois que c'est 1863 à 1873. Et puis, il y a une deuxième correction qui a été faite, puisque suite à ces travaux, ils ont trouvé que c'était nécessaire de refaire encore un assainissement supplémentaire. Celui-là, il a été fait environ 100 ans plus tard, donc en 1962 jusqu'aux années 1970.
Il a été creusé comment ?
Ou avec des outils qui étaient, en tout cas pour la première correction des eaux du Jura, qui étaient assez rudimentaires. C'était des pelles à câbles, même les premières machines étaient encore à vapeur.
Quel était son rôle au départ ?
Du canal ?
Oui.
Alors au départ, c'était une rivière naturelle hein, qui a été creusée finalement par l'écoulement naturel des eaux. Donc ça, c'est l'ancien lit de l'Abroie. Et puis, comme j'ai dit, il a repris toute son importance pour améliorer l'écoulement de l'eau finalement entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel, puisque l'eau du lac de Morat s'écoule dans le lac de Neuchâtel, qui ensuite va au lac de Bienne pour s'écouler via l'Arre, le Rhin, et va se jeter dans la mer du Nord. Donc l'eau qui coule devant chez nous, elle arrive à la mer du Nord.
Quelles sont ses dimensions ? Longueur, largeur et profondeur ?
Alors en profondeur, on est environ à 5-6 mètres. Ben, ça dépend toujours le niveau, hein, mais environ 5-6 mètres pour que ce soit navigable quand même avec des grands bateaux. En largeur, on est en voisinant les 50 mètres. Et puis la longueur, alors là, j'imagine environ 20 km, mais je ne sais pas exactement.
D'où à où va-t-il ?
Alors, le canal de l'Abroie, il part de Sugier, donc l'eau rentre dans le canal à Sugier, et puis il ressort à la Sauge. Lac de Neuchâtel.
Il sert à quoi aujourd'hui ?
Alors, il sert toujours à améliorer l'écoulement des eaux. Et puis, c'est vrai qu'il a pris de l'importance par rapport aux voies navigables. Donc, il y a beaucoup de touristes qui l'utilisent avec leurs bateaux. Et puis, il y a quand même la société de navigation, qui est une société de transport, qui transporte des personnes pendant la belle saison entre Neuchâtel et Morat.
Combien y a-t-il de sortes de poissons qui vivent dans le canal ?
Beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de sortes, mais si j'écoute les pêcheurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts avec des pêcheurs, pas seulement professionnels, mais des pêcheurs amateurs qui viennent, ils ont de la peine à pêcher du poisson ces derniers temps. Donc il semblerait quand même qu'il y ait toujours moins de poissons.
Mais avant, il y avait quelles sortes ?
Alors, il y a toujours eu du brochet, des perches. Vous avez déjà mangé du filet de perche, je pense.
Oui. Hein. Ouais.
Donc, il y a la spécialité du brochet, des perches. Je ne suis pas grand spécialiste, mais il y a ceux qui ont les grandes moustaches qui sont tout au fond, c'est les silures. Hein. Ça, c'est les poissons d'eau qui sont tout au fond.
Ouais.
Et puis, je crois qu'il y a aussi quelques truites, mais pas beaucoup.
Okay. Quelles sont les plantes les plus répandues dans le canal et au bord du canal ?
Alors en principe, dans le canal, il n'y a presque pas de plantes, puisque le canal, il a tout été aménagé avec de la pierre naturelle du Jura. Donc il n'y a pas beaucoup de végétation, ou presque pas beaucoup de végétation dans le canal. À quelques endroits, il y a quand même quelques, je dirais, plantes de roseaux qui commencent à ressortir. Puis surtout maintenant, à l'heure actuelle, il y a des algues. Puis je crois que ce n'est pas tellement normal qu'il y ait des algues dans le canal de l'Abroie.
Y a-t-il beaucoup de trafic avec les bateaux, les grands et les petits ?
En période estivale, oui, beaucoup, énormément, toujours plus.
Vous arriveriez à dire à peu près, quoi ?
Ou non, j'ai beaucoup de peine. Ce qu'on peut évaluer, c'est c'est le nombre de bateaux qu'il y a dans la société de navigation, donc qui transporte des usagers et des touristes depuis Neuchâtel à Morat. Il y a environ une quinzaine de courses par jour.
Ah, c'est beaucoup.
Mais en période d'été, en période estivale uniquement, puisque pendant l'hiver, ben, ces bateaux ne circulent plus. C'est ne sûr. Naviguent plus, pardon.
Oui. Il y a des périodes de l'année pendant lesquelles les bateaux n'ont pas le droit de naviguer dans le canal de la Broye.
Non, il n'y a pas de restriction par rapport aux saisons. Les seules fois où j'ai vu que la navigation était interdite, c'est quand on a été confronté aux inondations dans les années 2007-2008, où le niveau de l'eau était tellement haut que la navigation avait été stoppée pendant quelque temps.
Avec le réchauffement climatique, le canal pourrait manquer d'eau pour la navigation des grands bateaux.
À notre avis, enfin à mon avis, pas, parce que c'est un canal, ou pas seulement le canal, mais ce qu'on appelle le bassin des Trois Lacs, donc le lac de Morat, de Neuchâtel et de Bienne. Artificiellement, on arrive à régler les niveaux. Donc à la sortie du lac de Bienne, il y a un barrage où on arrive à régler le niveau de l'eau. Donc si on manque d'eau, on arrive à monter le niveau, et puis on stoppe l'écoulement, et puis le niveau, il monte.
Y a-t-il déjà eu des problèmes de pollution dans le canal? Si oui, vous avez des exemples?
Oui, il y a eu quelquefois des pollutions, mais c'est des pollutions qui sont dues à, je dirais, les mauvais comportements des hommes, des êtres humains, des personnes. Donc c'est suite à des écoulements d'hydrocarbures avec des bateaux. Mais ça n'a pas été des grandes pollutions.
Il y a beaucoup de gens qui vont s'y baigner.
Oui, la période estivale, on voit beaucoup de monde qui se baigne. Mais c'est vrai que le week-end, quand il y a beaucoup de bateaux, c'est pas idéal.
Quel genre de balade peut-on faire le long du canal?
Alors, uniquement des balades à pied, puisque les deux berges de la Broye, donc des deux côtés des berges de la Broye, donc il y a un sentier qui est prévu, c'est un sentier qui est prévu à l'origine pour entretenir le canal de la Broye, mais qui peut être pratiqué par les randonneurs, par les promeneurs.
Mais en vélo, j'ai déjà vu quelqu'un, je crois, passer en vélo.
Alors, il y en a qui l'utilisent en vélo, c'est pas l'idéal parce que...
Il y a de la nature.
Voilà, exactement. Et puis, quelquefois, ça dérange quand même un petit peu les promeneurs à pied.
Ok. Vous avez d'autres informations importantes à nous donner sur le canal de la Broye et le bassin des Trois Lacs?
Des informations pas, mais il faut quand même savoir que suite à la création de ce canal, comme les autres canaux dans la première correction des eaux du Jura, ça a énormément amélioré la qualité de vie des gens qui habitaient dans la région, puisque avant cette création du canal, ben, il y avait beaucoup d'inondations. Donc il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de pauvreté. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir évacué toute cette eau, ça a amélioré la qualité de vie des gens qui habitaient dans la région.
Merci beaucoup, Monsieur Burny, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions.
Merci à vous.
Nils est à la plage, au bord du canal de la Broye. Le marchand de glace vient d'arriver. Nils demande à sa maman.
Maman, tu veux bien m'offrir une glace?
2 minutes, Nils. J'arrive, je profite de mes vacances.
Mais...
Je dois recharger mes batteries grâce au soleil, comme les plantes. J'ai besoin de lumière et de chaleur pour avoir de l'énergie. Tu n'as pas étudié la photosynthèse à l'école.
Splatch! J'ai aussi appris qu'il fallait les arroser, les plantes, pour qu'elles soient en forme. On va chercher une glace, alors?
Alors, Sophia, ça m'a?
Combien de poissons as-tu déjà pêché?
Si je compte celui qui tombe autour de ma ligne, ensuite si j'ajoute celui qui joue à cache-cache entre les pierres, sans oublier celui qui se ramène par là, eh bien ça me fera 3! Pas mal, non?
Les filles, vous avez aimé les deux histoires drôles inventées et jouées par Sophia, Nils et Annick?
Oh oui, moi j'ai adoré la première, quand Nils a aspergé sa maman.
Moi, j'ai préféré la deuxième, quand Sophia pêche dans le canal de la Broye.
Avant d'accueillir notre prochain invité, Monsieur Christian Rémy, qui est là pour nous parler des grottes du Vie, Avec Julie, Yael et Gonzalo, nous avons choisi de vous faire entendre 079 de Lo et le Duc.
Gab si mir wenigstens vorbar. Per favore. Ey, per favore. Oh, gab si mir wenigstens vorbar. Per favore. De gab's nummer nozza milione combinazione.
Nu si per nune tic se. Nyt må kysse til sæt, eh. Og de frager sig op i det du tæt til sæt, du. Nu huset for nyn at til sæt. Du er himmel og ny tæt til sæt. Nyt må kysse til sæt, eh. Og de frager sig op i det du tæt til sæt, yeah. I lytter jette dag er udskrumfter. Hun mørkt i de nummer har. Vær lidt tødt når det er udskrumft da. Fik hun jo fandme med da. Nu med noget siv. Og noget svøj angri. Hæst jeg det stridte mig i sidrande. Sig af mig. Jeg de nummer i rigtigt si min. I kap si mir venigstens forvar. Per favore. Det gæbs nu med noget millioner kombinationer. Ja, nu venina her. Pro minutter, dry fot de numre. Usprobir. Begynds maximum. Nummer 6, halv jaar lang. Hvis I er i fin. Nu huset på nyne tikset. Du er ikke med noget nyte tikset. Ni må kysse tikset, ey. Und die Frage sie ob ich ihr du hat sie gesagt du nur sie bei nun hat sie gesagt du weißt immer noch nicht hat sie gesagt nicht mal tschüss hat sie gesagt ey. Und die Frage sie ob ich ihr du hat sie gesagt du
und jetzt bin ich seit Jahren immer falsch verbunden. Und am Schluss bleibt mir tatsächlich nur eine Nummer. Nur noch eine Nummer, wo nicht die eintippt mit Zittrigen.
Interview.
Bienvenue dans notre émission, Monsieur Rémy. Pourquoi vous êtes intéressé par les roches grises?
C'est une jolie question. Les roches grises, il y a longtemps que je les connais déjà comme... Enfant, je venais jouer aux roches grises, puis après ça m'a intrigué, puis j'ai découvert toutes ces différentes casemates qui font partie de l'ensemble de tout ce domaine fortifié, qui commence aussi par les roches grises, et m'intéressant à l'histoire, j'ai voulu en savoir un peu plus, et c'est comme ça que j'ai creusé, je me suis documenté, et que j'en connais maintenant l'histoire. Ça fait partie de l'histoire du Vuilly.
Vous connaissez les roches grises depuis quand?
Comme tout jeune, j'habitais Morat. Donc on venait à vélo jusqu'au Vuilly, jouer aux roches grises. De temps en temps, on avait des bagarres avec les enfants du Vuilly, qui étaient aussi aux roches grises et qui voulaient tenir le lieu. Mais ça a toujours été donc, longtemps un lieu d'amusement pour les enfants.
Quand est-ce que les roches grises ont-elles été creusées?
Alors les roches grises ont été creusées dans la Molasse, en 1916, ça a été terminé en 1917. Ça a tout été creusé avec un pic, donc comme une pioche, parce qu'on ne peut pas employer d'explosifs dans la Molasse, comment ça se fend. La Molasse, c'est une sorte de sable aggloméré. Et on a fait différentes galeries là-dedans, et différentes niches à munitions, ainsi de suite.
On a creusé pendant combien d'années pour arriver au résultat final?
Alors environ 2 ans.
Pourquoi les roches grises ont-elles été creusées?
Pour en faire une fortification militaire, donc une fortification c'était pour abriter des soldats pour permettre de se défendre.
Les roches grises ont-elles été creusées comment, avec quelles machines et quels outils?
Alors pas de machines, uniquement avec des pioches.
Pourquoi ont-elles été creusées dans le Vuilly fribourgeois et pas ailleurs?
C'est une longue histoire, mais enfin, ça fait partie. il y avait une ligne de défense militaire, c'était durant la Première Guerre mondiale, qui a été établie entre le pied du Jura, en passant par Gampelen, peut-être vous savez où c'est Gampelen, toute la plaine qui est derrière le Mont Vuilly, qui passe par la Broye et qui allait par le Mont Vuilly jusqu'aux rives du lac de Morat, et puis ensuite de l'autre côté du lac de Morat, à partir du Löwenberg, c'est du côté de Montillier, jusqu'à la Sarine, près de l'Aupen. Ça, c'était une ligne de défense qui regardait en direction de l'ouest.
Pourquoi il y a autant de molasses au Vuilly?
La molasse, c'est des sédiments. Donc, à une époque, il y a fort longtemps, il y avait une mer, il y avait la mer Tétis, par exemple, et puis tous ces sédiments, en plus par l'érosion des montagnes, etc., se sont déposés au fond, et ça a fait cette molasse, qui est donc, c'est du sable aggloméré.
Pourquoi il y a autant de dessins gravés et de tags dans les roches grises?
Les dessins, les tags ou les gravages, ça fait partie du genre humain. Déjà même, si on va à Avenches, les Romains faisaient déjà des tags, des graffitis à Pompéi. On a aussi trouvé des graffitis. De tout temps, l'homme a laissé des traces, a gravé certaines choses. Il y a même ceux qui sont amoureux, qui gravent un cœur, hein, etc., avec une flèche. Ça vous arrivera aussi une fois.
Est-ce qu'on a trouvé des objets de valeur en creusant les roches grises?
Pas à ma connaissance, mais je pense pas. Parce que c'était pas c'était des gens de passage et le matériel qui était là-bas a été évacué après.
On peut visiter ces grottes facilement?
Oui, on peut les visiter facilement. Il y a même des grands escaliers. Si vous ne le savez pas, les enfants les appellent les escaliers de la mort, hein. On les a refaites il y a quelques années avec la commune parce que ça venait un petit peu difficile. La molasse devenait érodée, puis c'était glissant. Alors on a refait des escaliers en bois. Mais avant, ce n'était pas des escaliers en bois, c'était uniquement des escaliers creusés dans la molasse.
Je dois emporter quoi avec moi pour aller visiter ces grottes?
Une lampe de poche. Contrairement à moi, je les connais si bien que je vais toujours sans lampe de poche. Quand j'ai des groupes, je promène là-dedans, je suis le premier, je n'ai jamais pris une lampe de poche, ça va très bien. D'ailleurs, on s'accoutume à la nuit, petit à petit, bon, quand c'est tout nuit noir, on ne voit rien, mais si vous êtes dans la pénombre, petit à petit, les yeux s'habituent, et essayez une fois d'aller sans lampe de poche. Vous ne risquez rien, puis quand on n'a pas de lumière, on perçoit mieux les bruits.
Est-ce qu'il y a des animaux sauvages dans les roches grises?
Non, des fois, je lui fais croire, quand j'ai des groupes, je leur dis que faites attention, baissez un peu la tête, il y a des chauves-souris, mais je n'en ai jamais vu. Il y en a vu, des chauves-souris, mais dans les roches grises, je n'en ai pas vu.
Pourquoi ce lieu s'appelle les Roches Grises?
Je m'attendais à cette question, et puis c'est une toute bonne question. Les Roches Grises, c'est parce que la molasse est grise. Les gens du Vuilly les ont appelés longtemps les Roches Grises. Mais en soi, le lieu dit, le toponyme, c'est la Lamberta. Une fois, il y avait un Z à Lamberta, puis comme maintenant on veut toujours généraliser, ils ont enlevé le Z, je ne sais pas pourquoi. Et puis c'est venu la Lamberta avec un A, puis il n'y a plus de Z. Donc le fort de la Lamberta. Puis quand les gens viennent visiter le Vuilly, ils cherchent même pas les roches grises, parce qu'ils ne sauront pas où c'est, si vous leur répondez. Ils cherchent les grottes du Vuilly. Donc oui, il a trois noms. Les grottes du Vuilly, c'est la Lamberta, et puis pour nous, c'est les roches grises.
Comment vous savez tout cela sur les roches grises?
Certaines choses j'ai appris de bouche à oreille en discutant avec des gens, puis d'autres, il y a des documents donc, sur toute l'histoire militaire de toutes ces cavernes. Si vous avez été sur le mont en direction du bois de l'école, vous savez qu'il y a un bois qui s'appelle le bois de l'école, parce qu'à la fin de la guerre, en 1918, il y avait de toute façon pas de forêt, aux Roches Grises, il n'y avait pas de forêt, et puis plus haut, depuis le restaurant du mont, si vous prenez le petit sentier pédestre qui va jusque au réduit, plus haut, à l'antenne, comme on appelle, hein. Il n'y avait pas de forêt non plus. Et puis ensuite, à la fin de la guerre, au lieu de redémonter tous ces ouvrages, il y a eu des échanges de terrains, on a redonné les bons terrains cultivables, échangés avec des agriculteurs pour cultiver, et puis dans ces lieux, on a replanté des forêts. Et le bois de l'école, c'est parce qu'à l'époque, vers 1920, cette forêt, une partie en tout cas, les arbres ont été replantés par des écoliers de l'école de l'Union.
Merci beaucoup, Monsieur Rémy, d'avoir donné de votre temps pour partager avec nous toutes vos connaissances sur les grottes du Vuy.
Au revoir.
Salut, Sophia. Pourquoi tu n'es pas venue à mon anniversaire au Roche Grise?
Mais il était écrit de 13 à 17.
Bah oui, et alors?
Et alors, je ne pouvais pas y aller, car je n'ai que 10 ans.
Après l'interview sur les grottes du Vuy, vous avez entendu une troisième histoire drôle préparée par nos copains de classe Nils, Sophia et Yannick. Ensuite, c'est la chanson Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello que nous avons décidé de passer dans notre émission.
C'est super toutes ces infos sur les grottes qu'on a apprises ce matin. La prochaine fois que j'y retournerai, j'essaierai de me souvenir de tout ce que je sais.
Maintenant, nous allons continuer avec la dernière histoire drôle et l'interview de Monsieur Daniel Perrotet qui va répondre aux questions de Margot, Mathieu et Emmanuel sur l'oppidum du Vuy.
Cerveau va à l'oppidum et je sais pas, arrive à l'école.
Les enfants, quel est votre prénom?
Toi, comment tu t'appelles?
Je sais pas.
Comment tu t'appelles?
Je sais pas.
Alors tu vas aller chez la directrice.
Comment tu t'appelles?
Je sais pas.
Ok, on va aller chez les parents.
Comment s'appelle votre enfant?
Je sais pas.
Où est passé votre cerveau?
À l'oppidum.
L'interview.
Bonjour, monsieur Perrotet.
Bonjour.
Qui a eu l'idée de construire cet oppidum?
Eh bien, l'idée de construire l'oppidum, en fait, elle est due au fait que les Celtes voulaient se protéger des incursions, donc ça veut dire des attaques de tous les peuples qui étaient tout autour d'eux.
Les Celtes ont construit l'oppidum sur le Vuy en quelle année?
Ils ont construit cet oppidum au 2e siècle avant Jésus-Christ, plus précisément, d'après des datations qu'on a pu faire, en 124 avant Jésus-Christ.
Il servait à quoi l'oppidum au temps des Celtes?
Alors un oppidum, si tu veux, si on compare à une époque qui est plus récente, les châteaux forts, donc vous connaissez peut-être des châteaux forts comme Chillon, comme Gruyère, comme Mora, ça c'était des constructions en pierre qui n'existaient pas à l'époque ici, si bien qu'au temps des Celtes, eh bien, on construisait une fortification qui était uniquement de pierre, de bois et de terre.
Pourquoi l'oppidum du Vuy a-t-il été construit à cet endroit précis et pas ailleurs au Vuy ?
Eh bien, les oppidas, comme on dit au pluriel, un oppidum, plusieurs, ça s'appelle des oppidas, ont été construits à des endroits qui étaient surélevés, de manière à ce qu'on puisse bien observer les environs. Et là, c'était une situation idéale, puisque le mont Vuy, comme vous le savez, si vous y êtes allé certainement, hein, eh bien, vous voyez que tout autour, on peut voir bien loin à la ronde tout ce qui se passe.
L'oppidum a été construit en quels matériaux et comment ces matériaux ont été transportés jusque sur le mont Vuy ?
Eh bien, je peux te dire ceci, c'est que le principal matériau, c'était du chêne, donc des gros troncs de chêne qui ont été amenés, tirés par des chevaux, probablement depuis la forêt de Galm, qui est une forêt près de Mora. Pourquoi de là ? Parce que c'était l'endroit où il y avait le plus de chêne à l'époque. Donc il a fallu beaucoup d'énergie et de temps pour amener sur place et monter sur le mont Vuy tous ces troncs. En plus de ça, on a utilisé de la pierre. On a construit une sorte d'armature avec des troncs dans les deux sens, ainsi que de la pierre qu'on a mise entre deux. Et on a comblé tout ça avec de la terre.
Il se passait quoi à l'intérieur de l'oppidum ? Comment les gens y vivaient ?
Eh bien, à l'intérieur de l'oppidum, si tu veux, donc c'était donc une fortification, un rempart, comme on vient de l'expliquer, et à l'intérieur, il y avait toutes sortes de familles qui vivaient, c'était des artisans, des forgerons, des paysans, toutes sortes de monde qui vivaient ensemble, comme dans un village ou une petite ville. Sur le mont Vuy, c'était probablement une toute petite ville.
Quand est-ce qu'il a été abandonné et comment a-t-il été détruit ?
Eh bien, c'est en partie une légende, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de la chose. Les Celtes qui vivaient là sur le mont Vuy ont décidé d'aller s'établir ailleurs en Gaule. Donc la Gaule, c'est maintenant la France, si tu veux. Et lorsqu'ils ont quitté cet endroit, ils ont décidé, pour bien montrer qu'ils n'avaient pas envie de revenir, ils ont décidé de brûler toutes les parties qui étaient en bois. Donc je t'ai dit qu'on n'est pas très sûr de tout cela, mais en fait, les archéologues ont quand même retrouvé, lorsqu'ils ont fait des fouilles, des pieux, donc des piquets de bois, qui étaient calcinés, ça veut dire qu'il y avait un peu de brûlure, donc qui ont été incendiés, donc on en a une sorte de preuve. Ce n'était pas une pure fantaisie.
Il y a des oppidas qui sont restés en bon état.
Oui, il en existe quelques-unes plutôt, on devrait dire, hein, si on parle d'une ville, notamment en France, par exemple à Bibracte, et puis en Suisse, il en existe aussi, une près de Berne, et d'autres encore dont j'ai oublié les noms.
Pourquoi ce bout de rempart a-t-il été reconstruit à cet endroit précis ?
Alors, on a voulu le reconstruire parce qu'on a voulu montrer aux promeneurs, aux randonneurs, aux gens du Vuy et d'ailleurs qu'il y avait là cette fortification et comme on n'en a plus aucune trace, on s'est dit qu'on pourrait montrer une sorte de modèle sur un tout petit tronçon.
On a retrouvé des objets de l'époque celtique en reconstruisant l'oppidum du mont Vuy.
Alors, on n'a pas retrouvé en reconstruisant l'oppidum, mais on en a trouvé lors des fouilles auparavant. Oui, il y avait des traces de différents petits objets que les gens utilisaient, par exemple des sortes d'épingles avec lesquelles on pouvait fermer les habits. On a retrouvé des pièces de monnaie parce que sur l'oppidum, donc il y avait un frappeur de monnaie. Donc on mettait une rondelle de métal sur ce qu'on appelle un coin monétaire et on tapait dessus pour donner une forme à la pièce de monnaie. Donc ça, on a retrouvé.
Vous êtes intéressé par l'oppidum du Vuy, pourquoi ?
Eh bien, tu vois, autrefois j'étais maître d'école aussi et puis quand on parlait de l'époque des Celtes et des Romains, eh bien, je devais aussi enseigner ça à mes élèves. Et puis d'autre part, c'est aussi un intérêt personnel. Comme tous les gens d'ici, on aime bien savoir ce qu'il y avait chez nous autrefois.
Vous avez d'autres choses intéressantes à partager avec nous sur cette construction celtique ?
Pas vraiment, non. Je vois pas trop. Dans l'immédiat, je peux pas te répondre plus précisément.
Monsieur Perrottet, nous vous remercions d'être passé à l'école de l'Ignore ce matin pour nous parler de l'oppidum du Vuilly.
Merci.
D'écouter Offen par contre Nick Waterhouse de Catchy. Pour le choix musical, chacun d'entre nous a pu proposer des titres et nous avons procédé à un vote pour nous mettre d'accord.
Merci Ladina pour tes informations sur le choix musical. Le 15 mai, on aurait dû partir à la découverte du patrimoine historique du Mont Vuilly. Mais le coronavirus nous a empêchés de faire cette activité. Je passe la parole à Eline pour le mot de la fin.
Super Kershnavi, je tiens à féliciter Evan P. et Thomas pour avoir assuré le travail en régie. Bravo aussi à Evan J., Thiago et Julian qui ont créé tous les jingles de cette émission. Encore une fois, merci aux trois invités qui nous ont accompagnés dans cette aventure ce matin.
Au revoir!
Merci,
merci,
merci
d'avoir écouté Radio Vuilly, la radio des génies.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé, qui faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu
loin des beaux discours, des grandes théories. À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Rien qu'un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il vit en temps de l'armée de douleur, et rêve de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées jour après jour de son souffle et de ses.